SBS Radio.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Dans les studios avec nous, Anne Rouault, qui est l'attachée scientifique au sein de l'ambassade de France en Australie, et professeur Guillaume Tcherquez de la Research School of Biology de ANU, Australian National University à Canberra. Bonjour et bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Jean-Noël.
On va commencer avec vous, Anne, une présentation de vous-même. Vous travaillez à l'ambassade de France en Australie depuis quelques années déjà.
Ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'ambassade. Et au sein de l'ambassade, donc, je suis en charge de la coopération scientifique entre la France et l'Australie. Alors, c'est une coopération qui est très dynamique. Ça fait très longtemps que les chercheurs français et australiens ont tissé des liens dans un nombre très varié de domaines. En astronomie, par exemple, dans le secteur de la recherche médicale et de santé, pour ne citer que ces deux domaines qui sont très vastes. Donc, une coopération qui marche bien, mais qui, c'est vrai, depuis la requalification de la relation diplomatique globale entre la France et l'Australie, à la suite de la signature de ce fameux contrat des sous-marins, eh bien, est en pleine dynamique de structuration. Je rappelle que le président Macron était en Australie il y a quelques mois, que la ministre Frédérique Vidal, en charge de la recherche et l'innovation, l'accompagnait, et qu'on se prépare avec le gouvernement fédéral à une séquence de dialogue stratégique pour justement identifier les domaines sur lesquels France et Australie veulent encore faire davantage. Période particulièrement intéressante et dynamique.
Et le ministre Le Drian arrive prochainement en Australie.
Alors, Jean-Yves Le Drian, effectivement, sera en novembre en Australie. Pour une visite de quelques jours, très vraisemblablement sur Canberra, Sydney et Adélaïde.
Pour nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu les services scientifiques au sein de l'ambassade de France à Canberra?
Oui, alors service, c'est un bien grand mot. On est une toute petite équipe. Je travaille en binôme avec mon assistante Nathalie Simonel et au sein quand même d'une équipe plus large qui s'occupe de la coopération bilatérale dans les domaines de la coopération universitaire, coopération culturelle, linguistique, éducative. Donc on n'est pas seul, mais en charge de la science et la technologie, on est deux effectivement. Notre rôle, c'est vraiment de faire un peu le go-between entre les institutions de recherche françaises, le ministère, et les acteurs de la recherche, les agences fédérales, les universités, les représentants du gouvernement fédéral et des États fédérés, pour essayer d'identifier les opportunités pour les deux pays et voir comment on peut structurer davantage et développer la coopération. Très concrètement, l'ambassade gère, si on veut, quelques instruments de soutien à la coopération scientifique. Très concrètement, c'est pas des budgets astronomiques, mais néanmoins, on finance annuellement de la mobilité de chercheurs entre la France et l'Australie, de la mobilité de doctorants. On finance depuis cette année, ça c'est quelque chose auquel je suis très attachée, des ateliers scientifiques, c'est-à-dire conçus en commun. Donc des équipes de France, d'Australie, décident peut-être d'investiguer de nouveaux champs et se retrouvent en nombre conséquent pour amorcer véritablement un nouveau projet de recherche. Voilà, donc on est un petit peu go-between et on appuie ou en support à ce que les chercheurs veulent faire émerger.
Et il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez là que vous aimeriez dévoiler ?
Alors dévoiler, je ne ferai pas forcément de révélation à la radio, mais plutôt pour illustrer, parce que je le disais, la palette des domaines scientifiques de coopération est très vaste. Alors je vais peut-être vous donner quelques exemples de projets en cours pour illustrer cette variété. Donc on est en train de travailler par exemple avec le CSIRO, qui est une des grandes agences fédérales de recherche, agence pluridisciplinaire, sur un atelier scientifique qui va associer d'ailleurs d'autres pays européens et qui va regrouper une cinquantaine de chercheurs sur des enjeux de compréhension, de discussion autour des besoins en données satellitaires des États du Pacifique insulaire. notamment pour tout ce qui est de support à leur, comment dire, à leur propre politique environnementale ou climatique, plus largement à tous leurs objectifs de développement durable, si vous voulez. Voilà, donc l'Agence spatiale française va être impliquée, donc le forum aura lieu à Brisbane début octobre. Pas mal d'organismes français font le déplacement. On associe surtout, ça c'est très important, les communautés scientifiques et de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, parce qu'il y a des forces aussi qui sont intéressées concrètement à travailler sur ces sujets. Donc c'est une illustration. Je peux mentionner aussi, parce qu'on est à Melbourne, et que voilà, c'est un développement récent qui mérite, à mon avis, d'être signalé à vos auditeurs. Il y a une coopération depuis quelques années très très intéressante entre des équipes du CNRS de Montpellier et l'université de Deakin, ici dans le Victoria, sur les problématiques d'écologie et de cancer. Donc en fait, ces équipes travaillent ensemble sur la compréhension des tumeurs cancéreuses qui frappent les diables de Tasmanie. Et donc notamment sur les enjeux de le caractère transmissible de certains cancers. C'est une collaboration tellement comment dire de tel niveau qu'en fait l'Agence nationale de la recherche française et l'agence ARC, Australian Research Council, viennent d'apporter des moyens très significatifs pour que ce champ de recherche puisse se développer sous l'impulsion, encore une fois, des équipes de terrain de Deakin et de Montpellier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de significatif. C'est un point sur lequel j'ai très envie d'insister, puis ça fera une transition d'ailleurs avec ce que Guillaume va nous raconter, mais on parle beaucoup de sous-marins, de technologies, alors effectivement... L'ingénierie, le spatial sont vraiment des champs sur lesquels on voit que des choses vont se développer très, très probablement. Je voulais quand même dire que la coopération scientifique France-Australie, c'est aussi un énorme focus sur les enjeux de conservation de la biodiversité. Alors terrestre, marine, on s'intéresse pas mal, on travaille beaucoup avec les Australiens sur les enjeux de protection, en tout cas de promotion de modalités de gestion résiliente des écosystèmes récifaux. Il y a toute une tradition voilà, de coopération en biologie végétale, bon, dont on ne parle finalement pas assez. Donc l'idée aussi, au travers d'expositions ou de conférences, etc., c'est de valoriser, de montrer voilà, aux communautés, hein, des champs de recherche qui sont souvent trop peu connus.
Je viens vers vous, professeur Guillaume Tchakes de la Research School of Biology à ANU. Peut-être une présentation de vous-même, d'abord.
Oui, alors, donc moi je suis professeur donc, à l'ANU, mais également professeur à l'Université Paris Sud, dont je suis détaché.
Oui.
Donc je suis arrivé en Australie en 2015 et j'ai bénéficié d'ailleurs d'un financement assez conséquent de l'Australian Research Council, donc qui m'a permis de développer un projet de recherche très intéressant donc sur place à l'ANU.
On va parler de cette exposition The Flora of the Paris Basin qui a été inaugurée le 16 juillet dans les locaux de l'Alliance française de Melbourne. Mm-hmm. Parlez-nous de cette exposition.
Cette exposition, en fait, elle est née d'un cheminement qui remonte à 2013, qui a été en fait la réalisation d'une exposition que j'avais montée lorsque j'étais encore professeur à l'Université Paris Sud, dont l'objectif était de faire découvrir un petit peu au public français la flore australienne. Il se trouve que je connaissais relativement bien la flore australienne puisque je suis venu la première fois ici en 2005. Donc du coup, pour la fête de la science, qui est un événement scientifique assez important en France au mois d'octobre en général, avec le service communication de l'Université Paris Sud, on s'est dit finalement ça peut être un point intéressant. Et ça avait été un succès assez important. Le public avait beaucoup adhéré à ça. Et lorsque je suis venu en Australie, j'ai eu l'idée de faire un petit peu la réciproque, qui est de dire faire découvrir la flore de France, donc les flores sauvages, du bassin parisien aux Australiens. Et donc, c'est un projet qu'on a monté avec Anne.
Avec l'ambassade de France.
Avec l'ambassade de France, qui a soutenu financièrement de façon significative d'ailleurs.
Et donc, d'après ce que je comprends, il y a 6 étapes à parcourir dans cette exposition. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces étapes ?
Oui, Donc, enfin, c'est des étapes qui sont thématiques. Hein, qui, l'objectif, c'est progressivement de faire découvrir différents aspects qui s'articulent les uns avec les autres, d'ailleurs, autour de la flore du bassin parisien. Donc, il y a une partie qui est un petit peu plus, on va dire, académique, si vous voulez, qui reprend un petit peu qu'est-ce que c'est que le bassin parisien, qu'est-ce que c'est que la végétation du bassin parisien, etc. Ensuite, il y a une étape qui est autour des espèces qui sont un petit peu emblématiques, qui sont là un petit peu pour qu'on n'oublie pas la biodiversité autour de Paris et le fait qu'il y a des espèces qui finalement sont endémiques dans le bassin parisien, qu'on n'en trouve que là dans le monde, et que bon, bah, au final, c'est quelque chose qu'il faut protéger tant qu'on peut. Et puis ensuite, les thématiques sont un petit peu plus liées soit à l'histoire, soit à l'art, donc avec un lien avec des scientifiques qui ont été impliqués dans l'histoire de la botanique et en Île-de-France, donc comme Duchesne ou d'autres. Et puis un petit encart spécial sur Versailles, parce que Versailles a été, la mise en place des jardins de Versailles a été une telle transformation écologique à partir du XVIIe siècle que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et donc bon, bah, c'est un petit peu un prétexte pour parler de la transformation de la flore naturelle autour de Paris à cause de la mise en place des jardins de Versailles.
Et donc il y a une connexion avec disons les explorateurs français de l'époque qui ont ramené des spécimens en France ?
Oui et non. Alors indirectement, oui, parce qu'à l'époque, à partir de la fin du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, Versailles était doté d'une serre tropicale dans laquelle des espèces qui venaient de différentes contrées dans le monde ont pu être cultivées. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu le lien. Et c'est vrai que les botanistes de Versailles, à l'époque, ils étaient extrêmement fiers d'avoir pu cultiver des plantes tropicales, comme par exemple l'ananas. Je cite souvent l'ananas, qui est un exemple assez intéressant, parce que dès le début du XVIIIe siècle, finalement, Louis XIV a pu manger de l'ananas cultivé à Versailles, dans des serres tropicales chauffées.
Et que diriez-vous aux gens qui nous écoutent pour les encourager à aller découvrir cette exposition ? The Flora of the Paris Basin.
Ah, oh, mais il y a plein de
qui voyagent d'ailleurs de Canberra à Melbourne et peut-être dans les autres alliances, on l'espère.
Oui, alors les autres alliances, oui, ça c'est un projet en cours, hein, donc on est en discussion avec Anne justement pour essayer d'articuler ça, si d'autres alliances sont intéressées, si on peut organiser ça dans leur planning qui est assez complexe. Alors comment encourager les gens à y aller ? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est la première, c'est que pour les gens qui aiment les choses belles, qui veulent voir des jolies choses, je pense que ça peut être un point intéressant, parce que la plupart de ces fleurs-là, il y a des photographies, hein, elles sont très belles à voir. Et puis quand elles sont illustrées par des peintres impressionnistes, c'est encore plus joli à voir.
Eh bien, merci à vous deux d'être venus nous rendre visite à SBS. Et peut-être une dernière question avant de vous laisser partir. La finale de la Coupe du Monde, les Bleus ont gagné. Comment est-ce que vous avez vécu cette finale, Anne ?
Alors, c'était un match vraiment palpitant à suivre. Ce qu'on retient surtout, moi, je suis pas une fan intégrale de football. Alors, les Coupes du Monde sont toujours ramènent au football des gens qui, voilà, dont c'est pas forcément la passion immédiate. Ce qui est magnifique dans ce genre d'épisode, c'est effectivement ensuite la joie voilà, commune que ça permet d'exprimer. C'est dans des contextes où, voilà, notre pays a pu traverser, être confronté, que ça joue aux attentats, voilà, où la situation économique occasionne, hein, dans une partie de la population, des craintes et de l'angoisse par rapport au futur. Bah, typiquement, ce genre de joie commune, voilà, cimente un peu la communauté nationale, et en ce sens, je crois que c'est toujours bienvenu.
Et pour vous, Guillaume,
je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. D'autant plus qu'il y a cette espèce de galvanisation, si j'ose dire, autour du drapeau français, la Marseillaise, tout ça, qui ont été chantés sur les Champs-Élysées. C'est bien, parce que ça donne quand même... ces symboles-là sont utilisés en dehors d'un contexte militaire, ou en dehors d'un contexte un peu belliqueux, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. C'est la cohésion nationale autour de symboles,
oui,
vraiment français, hein, mais au-delà du militaire, quoi.
Oui, non, et puis cette équipe de France, c'est vraiment, en plus, offre un beau visage de ce qu'est la diversité multiculturelle française, et c'est aussi, voilà, très sympathique de sentir l'adhésion nationale autour autour de l'équipe de France. Donc non, en ce sens, c'est vraiment, je crois qu'on profite de la joie que ça occasionne vraiment premier degré, quoi.
Eh bien, merci à vous deux et bonne continuation.
Merci Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.